Bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et chaque mardi, je reçois un ou une humaine concernée de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets souvent éloignés des contes de fées, mais toujours passionnants et criants de vérité. Cette saison, je te propose aussi un épisode bonus chaque vendredi. Il sera composé soit d'une parole d'expert sur le sujet abordé le mardi, soit d'un épisode solo un peu drôle pour dédramatiser certains sujets de parentalité. Sais-tu que chaque année, environ 3500 couples hétérosexuels sont en attente d'un don de gamètes, que ce soit de sperme ou d'ovocytes, pour pouvoir concevoir un enfant ? Je parle des couples hétérosexuels uniquement par manque de données, mais il est évident que ces chiffres seront revus à la hausse avec l'ouverture de la PMA aux couples de femmes. Du côté des donneurs et donneuses, en 2019, 836 femmes ont fait don de leurs ovocytes et 317 hommes ont fait don de leur sperme. L'écart est énorme, en effet. Mais un don de sperme peut aider beaucoup plus de couples qu'un don d'ovocytes, puisqu'on collecte des milliers de gamètes chez les hommes quand ce ne sont que quelques ovocytes chez les femmes. Suite à l'infertilité de sa meilleure amie, Mathilde, mon invitée du jour, a décidé de faire partie de ces femmes qui donnent un peu d'elles pour aider les couples qui ne parviennent pas à procréer. En France, il est impossible de faire ce don à une personne de son entourage, mais peu importait pour elle. L'essentiel était de faire quelque chose à son échelle. Dans cet épisode, Mathilde nous raconte son parcours, depuis sa découverte de la maternité à son envie d'offrir ce bonheur à celles et ceux qui n'y parviennent pas. Elle nous explique les différentes modalités, ce que ça implique de faire ce don et son sentiment de faire quelque chose d'important. Tu penses être seule à galérer ? Mets tes écouteurs et prenons un café. Bonjour Mathilde.
Bonjour Élise.
Bienvenue sur Prenons un café.
Merci.
Je suis contente de te recevoir. On est là ce soir, parce qu'on est le soir, voilà, suite à ta proposition de témoignage sur mon formulaire de contact et je t'en remercie beaucoup.
Ça me fait plaisir d'être là.
On va aborder aujourd'hui un sujet qui est important.
Oui.
Un sujet de société très très important. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, s'il te plaît ?
Alors, je suis Mathilde, j'ai 35 ans et j'ai la chance d'avoir deux enfants, deux garçons, Raphaël et Robin, qui ont 7 ans et 5 ans.
Ben, félicitations.
Merci.
Petite question traditionnelle, Mathilde, est-ce que tu as toujours voulu avoir des enfants ?
Alors, je ne sais pas me dire à partir de quel moment je me suis dit que j'en voulais. Pour moi, je pense qu'en effet, c'était quelque chose de naturel. Ma mère était éducatrice de jeunes enfants. J'ai toujours été allée à la garderie pour passer mes mercredis. Donc, j'ai toujours été attirée par les enfants. Donc, je pense que je me suis toujours dit que j'allais en avoir. Mais avec les études, je les ai eues, on va dire, autour de la trentaine. Mais ouais, je pense que j'ai toujours su que j'allais être maman un jour.
Comment il s'est construit ce projet d'enfant avec ton mari ?
Ça a été assez long parce qu'on a une relation qui est longue. On s'est connus, on avait 18 ans tous les deux. Donc forcément, ce n'était pas d'actualité à nos 18 ans. On a été dans des études à être parfois un peu séparés. Donc voilà, notre histoire a été... on a grandi ensemble, clairement. On a décidé d'avoir des enfants à peu près au bout de 8 ans de couple. Et ils sont arrivés assez facilement.
Ouais,
j'ai pas eu de difficultés pour avoir ni l'un ni l'autre.
Ok, top. Mais c'est trop bien.
C'est
une chance, justement, c'est par rapport au sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Tes grossesses se sont bien passées. Est-ce que tu as aimé ça, toi, être enceinte ?
Oui, moi, j'ai aimé ça. J'ai aimé d'avoir cette relation privilégiée, au final. J'ai aimé, on va le dire aussi, être un peu au centre de l'attention des autres. Enfin, voilà, on se sent un peu sur un piédestal. C'est vrai que c'est hyper agréable. J'ai pas eu de difficultés dans ma grossesse. J'ai pas eu de nausées pour aucun des deux. Donc voilà, j'ai eu que le bonheur et pas les inconvénients. Donc et ça m'a jamais dérangé de ressentir un enfant bouger ou quoi que ce soit. Donc non, j'ai vraiment apprécié ça.
Est-ce que tu avais une idée précise du nombre d'enfants que tu voulais ? Est-ce que vous en aviez parlé avec ton mari ?
Alors, plus ou moins. Je sais que moi, je ne voulais pas de nombre impair. Ça peut être très étrange, mais voilà, je suis issue d'une famille de 3 enfants et j'ai trouvé qu'il y avait toujours un peu une personne qui était mise de côté. Donc, je ne voulais pas avoir non plus d'avoir un seul enfant, clairement. 2, c'était mon idéal, je pense. J'ai toujours dit à chaque fois qu'on me posait la question, j'ai 2 mains. Donc voilà, moi, je me vois avec 2 enfants. Je sais qu'aujourd'hui, ce n'est pas d'actualité d'en avoir d'autres. Je pense que ça ne le sera pas, mais... Je pense qu'on ne va jamais dire jamais non plus. S'il y en a d'autres à terme, ça sera 4 et pas 3. Enfin, voilà, ça serait ce côté nombre pair. Mais l'échange que j'ai pu avoir avec mon mari, non, je pense que lui, il était issu de d'une famille où ils étaient deux. Donc, je pense que naturellement, on s'est dit, on partait sur ça, quoi.
Ouais, pour l'instant, le compte est bon, mais comme tu dis, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Alors, tu m'as proposé ton témoignage parce que tu as eu recours, je ne sais pas si on dit tu as eu recours ou tu as fait, je ne sais pas, au don d'ovocytes, mais pas pour tes grossesses, puisque ce que disais, c'est que toi, tu es tombée enceinte très facilement. Par contre, après l'arrivée de ton deuxième enfant, tu as eu envie de faire un don d'ovocytes. Est-ce que tu peux nous raconter la genèse de tout ça? Comment c'est venu? Pourquoi tu as pensé à faire ce don?
En fait, j'ai été la première de mon groupe d'amis et même de ma famille très proche à tomber enceinte. Donc, j'ai jamais été, en tout cas pour moi et par rapport à ma grossesse, j'ai pas été confrontée aux difficultés pour tomber enceinte. C'est un peu, on va dire, avec la grossesse où j'ai commencé un peu à me renseigner. Et au final, quand on a commencé à avoir d'autres amis qui ont commencé à avoir eux aussi leur grossesse, que je me suis rendu compte que la facilité que j'avais eue moi n'était pas la même pour tout le monde, et en particulier pour ma meilleure amie qui a aussi également eu ce désir de grossesse et qui n'a pas du tout eu la même, qui n'est pas arrivée de la même manière que c'est arrivé pour moi, qui a dû passer par des FIV. Et j'ai eu envie de l'aider énormément, j'ai eu envie de faire quelque chose et je me sentais vraiment impuissante. Et je me suis dit que si je ne peux pas l'aider elle, je pourrais en aider d'autres. Et je voulais au moins avoir ce côté, ok, je partage le parcours et le vécu que tu peux avoir. Donc je me suis renseignée pour faire un don d'ovocytes. C'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout, je l'ai découvert dans un article de journal. Et en fait, voilà, quand j'ai lu cet article, ça a résonné peut-être différemment en me disant « Ok, ça va peut-être être aussi une preuve d'amitié, ça va être à montrer que je vais l'accompagner, que je la soutiens dans sa démarche, dans son histoire. » Et en même temps, je me suis dit que j'ai aidé énormément de personnes en faisant ça.
Est-ce que tu peux nous dire concrètement ce que c'est que le don d'ovocytes?
Alors, le don d'ovocytes, en gros, c'est à l'inverse du don de sperme, un peu le don d'ovaire. Le don d'ovule, pardon, pas d'ovaire.
Pas parce qu'on en a deux, ceux-là, on les donne plus.
En gros, alors c'est beaucoup moins simple que le don de sperme, parce que le don de sperme, en gros, voilà, les hommes vont au laboratoire et c'est fini assez rapidement. Pour une femme, c'est beaucoup plus long. En gros, à chaque cycle, les ovaires fournissent des ovules, enfin en tout cas des ovocytes, et il y en a un seul qui se détache à l'ovulation. Pour le don d'ovocytes, on vient stimuler tous ces petits ovocytes et on vient récupérer la totalité des ovocytes quand ils sont assez gros. Et après, on les insémine peut-être directement pour certains. En tout cas, ils le font sous deux phases. Soit c'est, on va dire, frais, soit ils sont congelés. Mais en tout cas, ils sont récupérés pour justement, soit avec le père, de l'inséminer avec le sperme du papa, soit... Après ça, je ne sais pas forcément s'ils le font dans d'autres circonstances. Mais voilà, c'est la récupération de l'œuf, de la partie féminine, quoi, en tout cas.
En fait, la stimulation ovarienne et la récolte des ovocytes se fait de la même façon que dans le cadre d'une FIV où tu es, toi, imaginons, en PMA. Et que,
c'est exactement le même parcours.
Voilà, c'est ça. On prélève l'ovocyte et le sperme du partenaire. Et dans le cas d'une FIV, si c'est même pour soi ou pour quelqu'un d'autre, la fécondation se fait à l'extérieur dans une éprouvette et après l'embryon est mis à l'intérieur du corps de la femme.
C'est ça.
Là, toi, tu as donné tes ovocytes pour qu'en fait ce soit possible pour d'autres couples. Ce n'était pas pour toi.
Voilà, tout à fait. Et c'est exactement le même parcours en tout cas que pour une PMA. C'est exactement la même chose jusqu'à la sortie de
l'ovocyte. Pas jusqu'à la fin. Mais en tout cas, donc du coup, c'est stimulation ovarienne avec des hormones.
Oui.
Ça doit pas être facile.
Avec des piqûres. Alors après, je sais que les gens réagissent un peu différemment. Moi, ça va. J'ai pas eu en tout cas de soucis. J'ai eu un peu le ventre gonflé, etc. Mais la première piqûre, elle est jamais facile. Ouais. Mais au final, ça passe. Ça passe.
Ouais. Et ensuite, comment se fait le prélèvement?
Je pense de la même manière. En gros, alors moi, j'ai pas été anesthésiée généralement. On peut avoir plusieurs méthodes. Ils m'ont quand même mis un petit sédatif pour avoir un peu moins de douleur. Mais en gros, ce qu'on m'a expliqué, c'est il y a en même temps une échographie vaginale pour vérifier, mais c'est un peu un aspirateur qui vient récupérer. Tous les ovocytes qui sont... Alors, je ne sais pas s'ils prennent tout ou que ce soit la bonne taille, mais ils viennent récupérer ce qu'il faut. Et de ce fait-là, en gros, la stimulation est un peu de la même manière où on a des injections tous les jours et une échographie tous les deux jours pour vérifier quelle est la taille de ces ovocytes et puis s'ils sont de la bonne taille, allez, on déclenche.
Quand ils arrivent à maturité, c'est parti.
C'est ça.
Entre le moment où tu lis cet article, où tu apprends que le don d'ovocytes existe, et le moment où tu commences la démarche, il se passe combien de temps ?
C'est assez long, parce que non pas par rapport à moi, la démarche, et par rapport à comment ça fonctionne, mais par rapport au rendez-vous, etc., pour lancer la procédure. Encore une fois, je pense que c'est pas... Alors non, je pense que pour les hommes, c'est aussi un parcours qui n'est pas hyper rapide, mais j'ai dû avoir cet article, j'ai dû le voir début 2017, et vraiment le don en lui-même, j'ai dû le faire en juin 2017.
Oh, donc, ça reste quand même relativement... Ouais. Voilà.
C'est ça, mais c'est vrai qu'il y a quand même 6 mois entre le moment où on prend rendez-vous avec le SECOS, qui est homologué pour faire la récupération de ça, avec les rendez-vous avec le professeur qui est en charge à l'hôpital, qui est responsable de ce service-là, les rendez-vous avec une psychologue pour vérifier que le don est bien... Et compris et qu'il n'y a pas d'autres...
Vraiment consenti, quoi.
C'est ça. Et puis après, moi, je sais qu'il y avait des questions. C'était un peu pourquoi vous faites un don ? Est-ce que c'est pour avoir votre lignée qui continue ou pas ? Enfin, voilà. Donc, je pense qu'ils doivent aussi avoir des personnes peut-être sur des envies différentes. Mais voilà, ils s'assurent de ça. Il y a le côté aussi analyse génétique pour voir s'il n'y a pas de problème de santé dans l'entourage, famille, etc. On a aussi un rendez-vous avec la sage-femme pour expliquer comment ça fonctionne sur le traitement, etc. Puis après, voilà, les rendez-vous commencent. Ouais. Et je sais que moi, par rapport à ça, comme j'étais sous stérilée, un mois avant, je devais arrêter ce moyen de contraception. Enfin, arrêter, non, je le gardais, mais en tout cas, je devais reprendre la pilule. D'accord. Pour simuler à nouveau un cycle classique pour que ça fonctionne bien par rapport aux dates, etc.
Okay. Ah, tu peux garder ton stérilet ?
Bah, en plus, je l'ai changé via ça.
Parce qu'en fait, t'as fait du 2 ans, non, toi.
C'est ça. Mais en fait, pendant ma première échographie, où justement, ils viennent voir si tout se passe bien, s'il y en a assez ou pas, parce que je sais qu'ils ne stimulent pas, si par exemple, ils voient que la réserve ovarienne n'est pas... Ouais. Au top, etc. Et là, ils m'ont dit « Ah, votre stérilet, il est un peu décollé à un endroit. On va en profiter pour l'enlever et en le changer. » Donc, je me suis dit « Bon, j'ai peut-être évité une troisième grossesse grâce à ça, qui n'aurait pas été désirée à ce moment-là. Mais » Mais voilà, donc, de ce fait-là, ils m'ont changé le stérilet en même temps qu'ils ont fait la fonction.
Pourquoi pas ?
À un moment.
C'est quand même pas un moment très agréable. Donc, si on peut combiner, faisons-le. Trop bien. Alors, du coup, tu nous expliquais, quand tu as lu cet article, tu étais déjà maman des 2 enfants. Enfin, tu avais déjà les 2 enfants.
J'avais déjà les 2, oui.
Moi, ce que je voudrais savoir, c'est comment t'en as parlé à ton mari ? Quelle a été sa réaction ? Parce qu'en fait, c'est quand même quelque chose, mine de rien, je pense, qui se discute en couple.
Oui, bien sûr. Bah, surtout qu'en fait, pour faire un don de vos sites, vous devez avoir la signature de votre... Alors, je ne sais pas si ça fonctionne que quand on est marié, mais du conjoint. C'est-à-dire que lui doit faire une autorisation aussi pour dire que j'ai le droit de donner mes ovocytes.
Je t'avoue que je pense que c'est parce que vous êtes mariés.
Oui, peut-être. Mais en fait, quand j'ai regardé un peu sur les sites, c'était le conjoint. Et je me suis dit, tiens, le mot n'était pas...
Mais bon. Ça me paraît... Alors là, discussion complètement hypothétique et pourquoi pas vérifier. Mais ça me semble parce que tu sais, quand moi, je ne suis pas mariée... Et quand je suis tombée enceinte de ma fille, en fait, on a dû faire une déclaration anticipée pour déclarer la paternité, justement, de mon conjoint, parce qu'on n'était pas mariés, alors que si on avait été mariés, il était déclaré père de fait, en fait. Oui. Même si ce n'était pas lui, c'était lui, tu vois.
Oui, je pense, parce qu'en effet, le papier, de la façon que j'ai retrouvé, on lui demande aussi de ne pas chercher à retrouver cet enfant issu du don, etc. Donc, en effet, je pense qu'il doit avoir ce côté...
Ça a un lien avec le mariage.
Je pense, clairement.
Organisation patriarcale quand même.
C'est un peu ça. C'est un peu ça. Ouais. Mais en tout cas, comment est-ce qu'on a abordé le sujet ? Enfin, je pense que moi, quand je suis arrivée vers lui pour lui en parler, je lui ai dit j'allais faire ça. Et qu'en gros, plus ou moins, il n'avait pas forcément le choix. Mais je lui en parlais aussi pour voir son avis. Je pense que s'il avait été complètement à dire non, mais c'est pas possible, non, tu feras pas ça, je pense que j'aurais revu mon point de vue. Mais j'avais l'impression que ça m'appartenait à moi ce choix parce que c'était mon corps. Parce que voilà. Et non, je pense qu'il était hyper ouvert sur ça. Il a même dit faudrait peut-être que moi aussi je me renseigne pour faire le don de sperme. Bon, au bout de 4 ans, il n'a pas encore fait la démarche, mais c'est vrai que d'en avoir reparlé récemment, il s'est dit, tiens, oui, il faut vraiment que je le fasse. Donc voilà, il était aussi dans l'idée où c'est quelque chose qui est concevable pour lui et qui est bien et qui fera certainement un jour.
T'en as parlé à ton entourage ?
J'en ai parlé. Alors, il y en a certains, l'entourage éloigné, qui s'en est rendu compte une fois. J'avais témoigné dans un article aussi, dans un magazine... de parents, et il y a des gens qui m'ont dit « Ah bah, je t'ai vu là !» Enfin voilà, qui l'ont découvert comme ça. Sinon, en fait, j'en ai parlé facilement avec l'entourage proche, l'entourage un peu moins proche. Je ne sais pas s'ils sont au courant. Je ne me rappelle plus si je leur en ai parlé ou pas. Mais l'entourage très proche, familial, oui, j'en leur en ai parlé parce que mes parents ayant eu aussi des difficultés à avoir des enfants de manière... ils ont réussi de manière naturelle, mais je sais que mon père a fait un don de sperme, même, je pense plusieurs même. Et de ce fait-là, voilà, c'était aussi quelque chose d'assez ouvert d'esprit dans ma famille à ce sujet-là, parce que voilà, mon père elle l'a fait de son côté. Ils n'ont pas eu recours, mais en tout cas, lui aussi a fait la même démarche.
C'est intéressant, ça. C'est comme une petite transmission de père en fils, ce côté don. Est-ce que tu savais qu'il avait fait un don de sperme avant ton don à toi ?
Je pense que je l'ai... Alors, de plus loin que je me rappelle, ça n'a jamais été tabou. En tout cas, c'est un sujet avec... que ce soit la sexualité, la parentalité. Enfin, ça n'a jamais été tabou. Donc, je pense que je l'ai plus ou moins toujours su... qu'il avait fait un don. Donc ouais, j'étais enfant quand je l'ai appris.
C'est quelque chose qui t'a questionné, toi, le fait que ton père ait fait un don de sperme en tant qu'enfant, en tant que descendant de cet homme ?
Bah, de temps en temps, parce que je me dis, ah bah peut-être que je croise des gens, des fois on les observe, on se dit, est-ce que c'est quelqu'un qui a peut-être bénéficié du don ? Alors mon père est quelqu'un qui avait les longs pieds, donc voilà, il fait du 48, donc clairement tu te dis, voilà, est-ce qu'il y a des choses que... Donc ouais, tu te poses des questions, mais vraiment pas longtemps, et c'est pas quelque chose qui m'a... hanté, on pourrait dire, ou qui m'a vraiment fait que je me suis posé énormément de questions. Ouais, je me suis de temps en temps posé des questions, mais jamais plus que ça.
Est-ce que, par exemple, tu t'es posé la question quand t'as rencontré ton mari ?
Je pense que naturellement, oui, je pense que j'ai dû faire un check facile en mode, voilà, pour un peu savoir. Mais je me rappelle pas lui avoir posé la question du style, est-ce que tes parents ont eu des difficultés et tu aurais été issu d'un don ? Enfin, clairement pas. Mais voilà, je pense que c'est quelque chose que, oui, j'aurais peut-être essayé de... J'aurais voulu connaître, mais... Ouais, je sais pas comment j'ai su que c'était pas le cas, mais en tout cas, ouais, je pense que j'avais besoin de savoir, quoi.
Ouais, carrément. Attends, c'est quand même quelque chose.
Enfin, c'est sûr.
C'est vrai que, parce qu'on en parlait tout à l'heure en off, tu as noté sur des petits papiers un petit peu les réglementations sur ce qui est don d'ovocytes et don de sperme. Justement, le don d'ovocytes, il est possible, il est légal. Il se demande, est-ce que tu sais si pour faire un don d'ovocytes, on est obligé d'avoir déjà eu des enfants, par exemple ?
Alors ça a changé. Je sais que quand moi, j'ai fait le don, donc à peu près en 2017, je crois que ça devait changer peut-être un peu avant ou pas. Enfin, dans cette date-là, ça a changé. Avant, oui, on était obligé d'avoir déjà eu un enfant. Et aujourd'hui, non, on n'est plus obligé d'avoir un enfant. On a le droit de donner entre 18 et 37 ans. On n'a pas le droit de donner après, même si on est en bonne santé ou quoi. Après 37 ans, non. Alors déjà, ça m'a fait mal, parce qu'on a l'impression d'avoir une date de péremption. Enfin, c'est un peu...
Ceci dit, en même temps, pour en avoir déjà discuté, les grossesses après 37-38 ans sont considérées comme des grossesses gériatriques, avec un mot très, très, très agréable à l'entente. Hein,
oui, mais c'est vrai qu'on pourrait dire que bah, okay, c'est peut-être le corps de la femme qui peut être... Mais au final, est-ce que vraiment en soi, l'ovocyte est différent Et alors que l'homme, c'est entre 18 et 45 ans. Où on peut donner son sperme. Donc, Mais donc, en tout cas, on peut donner. Les seules conditions, c'est que ce ne soit pas contraint. Le don doit être gratuit. Et en effet, qu'on doit avoir entre 17 et 37 ans. Et on n'est plus obligé d'avoir déjà eu un enfant.
Et qui peut recevoir
Alors ça a changé, en effet, depuis pas longtemps. Avant, c'était les couples... on va dire classique,
hétérosexuel,
qui avait des difficultés à avoir un enfant, qui avait besoin par rapport au fait que voilà, les ovocytes de la femme étaient soit de moins bonne qualité, soit qu'elle avait déjà une ménopause précoce. Enfin voilà, c'était pour ces raisons-là. Aujourd'hui, le don d'ovocytes est ouvert à toutes les femmes, donc elles peuvent être célibataires et elles peuvent être en couple. Et de ce fait-là, voilà, ça a ouvert la porte à plus de personnes ayant besoin d'un don.
Ouais. Et c'est ce qu'on en discutait aussi, c'est qu'il y a quand même beaucoup de personnes en attente d'un don d'ovocytes.
Oui, il y en a des milliers, oui.
Ouais. Et il n'y a pas tant de donneuses, en fait.
Non, c'est ce que je regardais. Donc, en 2019, c'est vrai, 836 femmes qui ont donné leurs ovocytes. Alors, tu ne donnes pas que pour une personne. C'est des choses sur lesquelles ils ne communiquent pas forcément parce que voilà, c'est un secret dans le sens où derrière, je sais qu'en fonction des sécos, ils communiquent plus ou moins différemment. Certaines donneuses nous disent « bah oui, moi j'ai su combien ils avaient retiré d'ovocytes, etc. » Moi, clairement, on ne me l'a jamais dit, c'est quelque chose qui est tabou. On vous dit que ça peut aller à un couple, parce qu'ils peuvent en garder, je crois, plusieurs pour un seul couple, ou ça peut aller en même temps à plusieurs couples. Ça, j'en ai aucune idée, et je ne saurais jamais si un enfant est né de ce don. Et ouais, de ce fait-là, il y a 836 femmes qui ont donné, et donc ça peut aller à plus de femmes que ça, mais il y a plus de 1000 personnes sur liste d'attente, quoi. Donc je sais que ça doit prendre des années, c'est en années où la liste d'attente... Et c'est vrai que Pour le don d'ovocytes, il y a deux cas. On peut avoir une personne qui donne... Donc, en France, on ne peut pas donner ses ovocytes pour quelqu'un qu'on connaît. Mais par contre, le fait de donner, on peut faire passer un peu prioritairement un couple qui est en attente.
Ouais. D'accord.
Je sais que ça peut être en cours de modification, ça peut être plus d'actualité, parce que justement, ça faisait un peu...
C'est un peu polémique, ouais.
Bah, c'est ça, parce qu'en fait...
Question d'éthique.
Bah, de ce fait-là, ça faisait que le couple était peut-être à aller faire... Voilà, de trouver des gens, ouais. Et de ce fait-là, ça aidait à faire avancer tout le monde. Donc, de ce fait-là, oui, ils étaient un peu récompensés. Mais je crois que le souci, c'est que peut-être il y a des gens qui le donnaient sans vraiment avoir l'envie, puis qui se sentaient peut-être un peu forcés. Et aussi...
Peut-être qu'il y a eu aussi des histoires d'argent, de payer,
oui,
des personnes aussi, c'est
clairement,
une question.
Clairement, je pense. Et après, je pense aussi au niveau du questionnaire génétique pour savoir si on a des soucis ou pas. Je pense qu'il y a peut-être des gens qui, de ce fait-là, ne disent pas tout. Ça reste sur la bonne foi. Enfin, clairement, on m'a demandé si j'avais des problèmes dans ma famille. Les oncles, les tantes, ils iront assez loin quand même pour savoir si on y a des problèmes de manière génétique. Et bien, clairement, enfin, voilà, je pourrais très bien dire non, c'est bon, tout va bien et que ce n'est pas le cas. Je pense que...
Oui, parce qu'ils vérifient. Enfin, si, j'imagine qu'ils vérifient quand même le
patrimoine. Ils font une prise de sang. Ils font une prise de sang, mais après, je pense qu'on ne voit pas tout dans la prise de sang. Et c'est ça qui est des fois aussi un peu rude, parce qu'on se dit... Et je pense qu'il y en a certaines d'échanger justement avec ces personnes-là qui essayent de faire un don et qui ne peuvent pas. On leur refuse la possibilité de le faire parce que justement, il y a un frère ou peut-être... Alors, je dis une bêtise, c'est peut-être pas le cas, mais qui peut avoir, je sais pas, un problème de santé qui ne concerne pas la personne en elle-même. Et je le comprends, enfin, que ces personnes-là puissent être écartées pour éviter que les enfants issus de dons, malheureusement, ont peut-être un handicap, une maladie. Enfin, je le comprends. C'est frustrant des fois de se dire bah non, j'ai pas le droit de donner, pourtant j'ai eu deux enfants, ils sont en très bonne santé. Enfin, ça peut être aussi ce côté ah, j'ai réussi à passer ce test. Enfin, c'est un peu après c'est frustrant à mon avis de pas pouvoir le faire. Ouais. De se dire bah non, toi tu peux pas.
C'est clair. Puis Bert, c'est quand même aussi une histoire de hasard dans tout ça aussi parfois,
oui.
De à la conception, à la fécondation, il y a un truc qui se passe et qui fonctionne pas et qui fait que l'enfant finalement est malade et qui n'a absolument rien à voir avec les gènes de base, c'est juste un truc qui s'est passé au moment de la fécondation et c'est tout. Donc c'est vrai que ça peut être un peu, comme tu dis, frustrant de ne pas pouvoir le faire, alors qu'en fait, c'est pas simplement une question de génétique parfois et que ça n'écarte pas forcément les possibles maladies du futur bébé. Mais bon, en même temps, c'est vrai que c'est aussi important d'écarter le maximum de risques possibles parce qu'on est quand même sur des... c'est quand même très médical et très scientifique, cette histoire-là, quand même. On n'est pas... c'est un truc qui a, je sais pas, je vais dire, je vais aller loin dans les années, mais il y a peut-être 60, 80 ans, on pouvait pas faire, quoi, clairement pas.
Oui, c'est sûr.
Je sais pas depuis quand c'est possible d'ailleurs.
Je sais pas non plus, je sais vraiment pas.
J'imagine, si, la première FIV, c'est quoi, c'est les années 80 ou quelque chose comme ça, je pense. Donc, à partir de là, les dons ont été possibles, mais c'est quand même quelque chose de très contrôlé, déjà, de manière générale,
sûr.
Quoi.
C'est sûr.
Et tu m'as alerté, moi, sur un chiffre qui m'interpelle quand même beaucoup, le nombre de spermes, c'est
oui,
quoi ?
Qui, à l'inverse, est beaucoup plus simple, parce que là, au final, ça fait, à peu près un mois de... Enfin, pas un mois, mais c'est quand même lourd, c'est pas un truc... C'est tous les deux jours aller à la maternité pour faire une échographie vaginale, pour voir si tout se passe bien, etc. Enfin, ça prend du temps. Et à l'inverse, les hommes, c'est 317 dons. En 2019.
Alors que ça leur prend 5 minutes,
c'est
littéralement.
Ça.
Et qu'ils peuvent le faire n'importe quand.
Et plusieurs fois.
Voilà. C'est quand même un truc de fou.
Ouais.
C'est quand même un gros signal de notre société, quand même. Enfin, je trouve ça dingue.
Et oui, et après, en plus, ce qu'on disait aussi un peu en off, c'est que moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus connu, que c'est, que c'est un peu plus rentré dans les mœurs, que ça existe. Enfin, moi, clairement, avant cet article, je ne savais pas que c'était faisable. Enfin, on parle de don du sang, don d'organes, enfin, ça, c'est des trucs sur lesquels j'étais sensibilisée, mais le don d'ovocytes, non, pas du tout. Et que le don de sperme, en effet, s'il y a d'un côté, je me disais qu'il y avait peut-être de l'autre, même si je me disais que peut-être techniquement, c'était peut-être pas pareil, enfin, je ne sais pas. Mais c'est vrai que voilà, les hommes, c'est moins.
Ouais, puis c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que quand même, les dons de sperme, quand c'est cité dans tout ce qui est médias grand public, je pense à des films, à des séries, parce que c'est là aussi qu'on les entend. Alors, le don d'ovocytes, on n'en entend pas parler
dans
ce genre de films. On va peut-être en parler dans des documentaires spécialisés, mais jamais dans un film ou autre. Alors que le don de sperme est souvent évoqué dans les comédies et tourné en ridicule aussi. Tu pourrais avoir plein d'enfants.
C'est ça, oui.
Et c'est surtout dans les séries américaines où, parce qu'aux États-Unis, tu peux faire un don de sperme contre rémunération.
Oui.
Et c'est un moyen de rentrer dans les frais. Je pense notamment à un épisode de Friends où Joey, à un moment, veut faire un don de sperme et finalement, c'est plus possible. Donc, il essaye de trouver un jumeau. Enfin, bon, bref, peu importe. Mais donc, du coup, c'est souvent tourné en ridicule. Et donc, on en parle vachement plus. Et finalement, il y en a quand même vachement moins qui le font.
Oui. C'est ça.
Mais en même temps, les modalités pour faire un don de sperme en France, en vrai, on n'en parle pas non plus. Enfin, je veux dire, spontanément, en tout cas moi ça m'est jamais arrivé, un gynécologue ou autre va te dire bah en fait vous pouvez donner.
Non, c'est vrai. C'est vrai que j'ai jamais eu en non plus de mon côté un point de vue gynécologique, enfin voilà, de rendez-vous de personnes qui peuvent me dire
Il n'y a pas de campagne vraiment de ça, enfin, en tout cas peut-être qu'il y en a de plus en plus. Moi, j'en entends parler parce que je pense que je suis aussi sensibilisée, que je suis aussi sur une activité assez spécialisée sur tous ces sujets-là. Donc forcément, moi, j'y ai accès. Mais est-ce que les personnes qui ne s'intéressent pas à la parentalité ou à ce genre de sujet ont accès à ça? Est-ce qu'ils sont sensibilisés? J'ai pas l'impression.
Non,
en fait.
C'est peut-être ça aussi le souci. C'est qu'en effet, on n'évoque peut-être pas assez le sujet. C'est pour ça que je me suis dit que c'était pas plus mal de l'évoquer aujourd'hui.
Faisons ça.
Voilà.
Faisons ça. Moi, j'avais envie de revenir sur ton histoire à toi, dans le sens où, qu'est-ce que ça a impliqué dans ton couple, cette période de don? Est-ce que ça a changé quelque chose ou pas?
Non, ça a rien changé. Le seul truc, c'est que j'ai dû vachement compter sur mon mari pendant cette période-là, parce que, on est appelé à 7h du matin. Pour aller faire un examen et que il y avait déjà deux enfants. Ouais. Donc de ce fait-là, c'était OK, ce matin, je ne t'aide pas. Ça a été vraiment uniquement ça. Sinon, non, ça n'a rien changé. On n'en parle pas. Non pas que c'est tabou, mais parce que... Enfin, des fois, j'en parlais des fois à certaines personnes. Je n'y pense jamais en me disant, tiens, il y a peut-être des enfants qui sont nés, etc. Enfin, j'ai dû y penser deux fois, trois fois après l'avoir fait, en me disant, si les enfants sont nés juste à la suite de ce don-là, peut-être qu'une dame est enceinte et elle est à X mois de grossesse. Mais voilà, j'en ai plus jamais... Enfin, j'y ai pensé peut-être deux, trois fois et j'y ai plus pensé après. Donc non, ça n'a rien changé, en tout cas, pour notre couple.
T'en as parlé à tes enfants?
Pour l'instant, non. Pour l'instant, j'en ai pas parlé. Je pense que le sujet arrivera le jour où ils me poseront des questions sur nos amis qui eux, comme je disais au tout début, c'est pour ça que j'avais commencé à le faire, qui, eux, n'ont pas encore d'enfants. Si un jour, ils abordent le sujet... En fait, j'ose pas leur en parler, non pas par rapport à eux, mais par rapport au fait qu'après, j'ai peur qu'ils aillent poser des questions à ses amis et les mettre justement dans une situation où ils n'ont pas forcément envie d'aborder le sujet. Mais par contre, à l'inverse, quand ils poseront les questions, parce que je sais qu'un jour ils les poseront, de pourquoi un tel n'a pas d'enfant, etc., là, c'est clair que je viendrai sur le sujet pour leur expliquer que, en effet, ça arrive à plus de personnes qu'on le croit et que le fait de tomber... enceinte, d'être parent, c'est pas hyper évident pour tout le monde. Donc je pense que ça arrivera à ce moment-là, mais que pour l'instant, en effet, je leur en ai pas parlé. Et ils étaient petits aussi à l'époque. C'est vrai que le plus grand avait 2 ans et demi, peut-être. Le plus petit avait peut-être 3 mois. Donc voilà, c'est aussi pour ça où c'est pas venu dans la discussion. Hein. Maman est en train de faire ça actuellement.
Ouais.
Voilà.
C'est vrai que c'est plus difficile de l'intégrer dans une conversation quand c'est comme ça, quoi.
C'est ça. Et puis aujourd'hui, c'est vrai que le sujet n'est pas arrivé qui fait que j'ai abordé le sujet.
Ouais.
Je pense que le sujet serait venu naturellement parce que on pose des questions ou parce qu'il y a un livre. Enfin, je leur en aurais parlé naturellement parce que clairement, ça sera jamais un tabou et quelque chose qui ne sera pas dit. Mais plus par rapport au fait que, c'est pas venu dans la discussion. Comme c'est un truc sur lequel je ne pense plus avoir fait, c'est pas quelque chose que j'évoque, quoi.
Ouais, carrément. Tu disais justement que tu avais pris cette décision et que l'idée t'était venue suite à l'infertilité de ton amie.
Oui.
Quand tu as décidé de faire ce don d'ovocytes, est-ce que tu lui en as parlé?
J'en ai parlé quand les démarches étaient déjà lancées. Parce que je me suis dit, si je lui en parle en disant « Ah bah tiens, j'aimerais faire ça », c'était un peu bizarre. Et en même temps, je me suis dit, j'allais lui en parler en même temps qu'eux et on pourrait partager ça. Donc ouais, je lui en ai parlé. Je pense que j'étais déjà acceptée, on va dire, dans la démarche et que mon dossier était validé pour que je puisse le faire. Donc ouais, je lui en ai parlé à ce moment-là.
Et elle a réagi comment?
Elle en a pleuré. On n'a pas... En fait, c'est vrai que c'est des sujets sur lesquels on ne s'épanche pas beaucoup parce que je sais que c'est quelque chose qui est douloureux, qui est lourd. Moi, j'attends qu'elle vienne vers moi pour me parler de ça. Et dans ces cas-là, moi, je suis à l'écoute, etc. Mais voilà, je sens que c'est pas quelque chose sur lequel elle a envie de s'étaler, qu'elle a envie que je vienne. Donc voilà, on n'a pas parlé plus que ça, mais je sais que ça l'a énormément touchée et que ça lui a prouvé encore plus que mon amitié.
Ouais.
Même si je lui avais déjà prouvé en avant, puisqu'elle est la marraine de mon deuxième.
Mais comme tu disais tout à l'heure, en fait, en France, on ne peut pas donner
un proche,
en fait.
Donc, mais qu'on peut le faire en Belgique. Je sais que
en
j'ai
Belgique,
une amie qui a fait ça, ouais, qui a fait un don 2 fois pour une de ses amies.
D'accord.
Donc, c'est possible en Belgique. Mais mon amie n'a pas besoin de don. Mais à l'inverse, je lui ai proposé de faire, d'être mère porteuse.
C'est un truc que tu penses que tu pourrais faire.
Ah ouais.
Ouais.
Mais en fait, j'adorerais ça parce que j'ai adoré être enceinte. mais je veux plus d'enfants. Donc, moi, d'être oui. enceinte et après de donner cet enfant qui te laissera pas faire ses nuits, voilà, ouais. qui les couches et tout, moi, non, je n'en veux plus.
Ouais.
Donc, ouais, le fait de faire mère porteuse, mais aucun souci. Et pas pour tout le monde. Enfin, je me vois pas faire mon oui. métier comme certaines peuvent le faire dans d'autres pays. Clairement, ouais. je me verrais pas le faire pour quelqu'un d'autre. Si je le fais, je pense que c'est que pour elle. Je me vois pas le faire pour quelqu'un d'autre. Et je pense que je kifferais être enceinte. Mais par contre, ça, à l'inverse du don d'ovocytes, les gens le comprennent. Que ça, alors là, j'ai des gens qui me disent « Mais pourquoi tu ferais ça? Mais t'es pas bien, t'es folle. » Enfin, là, c'est par contre hyper mal vu.
Ouais.
C'est ça qui
mais en fait, je pense que c'est parce que, et c'est toujours pareil, hein, tu sais, quand tu parles de ces sujets, c'est vachement, ça touche au trip. Mmh. Et en fait, dans l'imaginaire collectif, c'est vrai que la GPA, la gestation pour autrui, c'est... Ben, c'est comme si tu donnais ton propre bébé.
Oui.
Alors qu'en fait, je pense que dans la démarche de le faire, tu sais que c'est pas ton enfant. Ben, déjà, c'est pas génétiquement ton enfant. Et je pense qu'en fait, il y a ce truc-là de trop projeter, de dire « je pourrais jamais donner mon enfant ».
Peut-être, peut-être.
Alors que quand tu fais la démarche d'une GPA, tu sais très bien que c'est pas pour toi.
Ben oui, et en fait, c'est un peu... moi, quand je l'explique, je me dis « c'est comme si les parents, ils étaient partis pendant 9 mois et qu'on garde un enfant à la maison pendant 9 mois. » Enfin, clairement, je me dis pas « c'est mon enfant à la fin des 9 mois ». Je me dis juste « ouais, il y a un lien qui est différent, forcément, avec cet enfant, mais c'est pas le mien.
Ouais. »
Et encore moins comme c'est pas mes ovocytes. Mais là, clairement, peut-être qu'il y a des enfants qui existent dehors qui ont une partie de mon génome, mais clairement, je les considère pas comme mes enfants. Demain, si avec la levée de l'anonymat, il y a un enfant qui vient à ses 18 ans en disant bah voilà, je veux connaître mes racines et savoir, enfin voilà, qui vient me trouver, mais je serais ravie de lui expliquer pourquoi j'ai fait ce don, etc. Mais je me sentirais pas du tout en lien avec cet enfant. Enfin, pour moi, la maternité, c'est l'amour qu'on donne à quelqu'un, c'est un peu comme pour l'adoption. Enfin, clairement, on est capable d'aimer un enfant à mon avis de la même manière que si c'était le sien quand on adopte. Et je pense que c'est la même chose quand il n'y a pas... Ou alors les parents qui sont séparés, qui sont remariés. Je pense que le beau-père, voilà, il aime d'un amour qui est équivalent à si c'était ses enfants. Quoi. Donc ouais, moi, pour moi, un enfant, d'être mère d'un enfant, c'est partager autre chose que son ADN, clairement.
Ouais, c'est ça.
Mais ouais, en tout cas, donc, je me verrais... Enfin, je pense que j'apprécierais. Mais aujourd'hui, si ce n'est pas fait, j'aurais proposé plusieurs fois. Ouais. Limite en devenant lourde avec ça. Non, mais vraiment, je peux le faire.
Je vous prête mon utérus.
Mais après, je sais que... Alors, on n'a pas été plus loin sur le sujet, mais c'était la peur, en effet, parce qu'une grossesse, ce n'est pas anodin.
Ouais.
Clairement, on peut avoir des problèmes par rapport à une grossesse. Moi, je n'ai pas eu de difficulté, même si forcément, ouais, c'est éprouvant pour le corps, etc. Et donc, je pense que c'est ça, c'est de ne pas m'imposer... quelque chose qui pourrait me faire prendre un risque, clairement, qui ne veulent pas. Et après, je pense aussi qu'il y a le côté, c'est pas légal aujourd'hui en France.
Ouais.
Demain, si ça se faisait, il faudrait le faire en Belgique. En Belgique, ils acceptent justement de faire ça à partir du moment où justement il y a pas de, les gens ne sont pas payés pour le ouais. faire et qu'en fait il y a un lien un peu que ce soit familial ou amical.
Ah ouais.
Ouais, il faut
c'est
que.
C'est marrant, j'aurais cru que ça aurait été l'inverse.
Non, justement, il faut que ouais, il y ait une raison, enfin que ce soit ouais, c'est vrai que ça aurait pu être l'inverse, mais en fait non, il faut que.
Qu'il y ait un lien. Quand
ouais,
même.
Qu'on prouve que c'est pas quelqu'un qui a été trouvé en mode je suis étudiante, je suis en année sabbatique, ouais. je fais ça, je prête mon un peu comme on peut avoir dans d'autres pays quoi.
Bah ouais. Ouais, carrément.
Mais de ce fait-là, ouais, c'est ça. Et mais après, c'est vrai que si ça avait fonctionné, etc. Mais pareil, hein, pour rentrer dans ce truc-là en Belgique, alors peut-être que ça a changé depuis, mais il fallait justifier d'avoir un X tentative de FIV qui avait échoué. Et je crois qu'il en fallait 10. Enfin, c'était vraiment quand même un truc assez ouais. dur. Mais après, ça veut dire que je suis légalement la mère de cet enfant. Qu'il faut après que je le...
L'abandonne.
Voilà, enfin, je sais pas exactement comment ça se passe, mais... Et en plus,
faudrait accoucher sous X, en fait.
Je pense pas, en fait, c'est un peu fait, mais en gros, je sais que même mon mari, légalement, était père de l'enfant, et que de ce fait-là, il fallait qu'il y ait une reconnaissance a posteriori, enfin... Enfin, clairement, c'est
oui.
pas du tout...
C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure avec ce régime de l'homme qui est marié avec la femme qui porte l'enfant et de fait son père.
Oui, tout à fait.
Alors, même s'il n'a pas de lien génétique, il est de fait son père, tout comme la femme qui porte l'enfant est de fait sa mère.
Oui, et je pense qu'il y a un flou en plus pour cet enfant qui au départ est inné, ses parents sont un tel, ça change après, enfin... Et je pense que les démarches sont assez lourdes aussi. Qui
fait c'est
que,
surtout que c'est interdit en France.
Oui, voilà.
Donc en fait, pour une femme française de faire une GPA en Belgique, c'est assez compliqué. Mmh. Il y a un épisode de Bliss Stories sur la GPA. C'est un couple qui a fait une GPA, mais en Grèce. Il me semble qu'il est intéressant. Et c'est vrai que les démarches après, derrière... Mais ce n'est pas une femme française, c'est une femme étrangère, donc c'est encore différent, mais une femme française qui va faire la GPA à l'étranger pour porter l'enfant, bah en fait, ça ne peut pas être reconnu en France. Il n'y a pas de texte de loi comme ça. Ce n'est pas possible. Ah, donc, c'est compliqué, quoi.
Ouais, donc c'est compliqué. Donc, voilà, moi, je ne pense pas que ça se fera, même si j'ai toujours la porte ouverte à ce sujet-là. Mais voilà, donc, ouais, ce n'est pas évident, tout ça.
Carrément. Tu parlais de la levée de l'anonymat.
Oui.
Quand toi, tu as fait ton don d'ovocyte, c'était sous couvert d'anonymat.
Tout à fait. Moi, je sais que quand on m'en a parlé, on m'a dit peut-être que les textes de loi évolueront. Hein, mais en tout cas, à ce moment-là, ouais, c'était de manière anonyme.
Et quel est... Enfin, aujourd'hui, c'est plus le cas.
Alors, ça va ne plus être le cas en septembre 2022.
Ok.
En septembre 2022, donc tous les enfants qui naîtront par rapport... Ou je pense que c'est même à partir du moment où il y a le don, à partir de septembre 2022, les enfants, à leur majorité, pourront avoir des informations. Alors, je trouve que ça, c'est pas hyper clair parce que à la fois ils disent qu'ils ont un accès à l'identité et des informations non identifiables. Mais bon, pour moi,
c'est
suite à l'identité, c'est identifiable. Enfin bref. Mais en gros, c'était la profession. Enfin, je sais pas trop dire l'âge. Enfin bref, j'ai
mais
essayé
ça peut
de regarder.
Évoluer, ça,
bah, c'est ça en plus.
18 ans,
mais bon, de ce fait-là, je trouvais ça pas hyper clair. Mais de ce fait-là, ils peuvent avoir accès à des infos. Et pour tous les dons qui ont eu lieu avant, on a la possibilité de donner notre avis sur oui ou non. Je lève l'anonymat. À la majorité. Même si aujourd'hui, c'est vrai qu'il existe d'autres techniques, et je pense qu'il y en a qui l'utilisent avec justement ces tests ADN pour retrouver qui est frère ou parent avec qui, donc il y a aussi cette possibilité-là, quoi. Mais oui, à partir de 2022, les dons ne sont plus anonymes.
Quelle est ta position à toi là-dessus ?
Ben, j'ai pas encore réfléchi vraiment à cette position-là, parce que déjà, je sais que c'est pas encore pour tout de suite, vu que c'est aux 18 ans de l'enfant. j'ai
oui,
un peu
de
le
la
temps.
Main.
C'est ça. Voilà, j'ai abordé le sujet avec mon mari il y a pas très longtemps, en lui disant, ben voilà, ça évolue et c'est vrai que c'est en préparant le podcast que j'ai eu l'info que ça avait évolué. Donc en plus, j'ai pas eu de courrier de « vous avez fait un don il y a quelques années, voulez-vous pas lever l'anonymat ?» Clairement, c'est parce que je me suis renseignée que je l'ai su, sinon, aucune info.
Ouais.
Et pourtant, j'ai pas changé de numéro de téléphone ou d'adresse mail, donc
et puis,
j'ai pas déménagé.
Ils pourraient te retrouver parce que c'est avec le numéro de sécurité
sociale, clairement.
Je veux dire, voilà.
Ils peuvent me retrouver. Donc, ouais, j'ai pas eu l'info, mais clairement, donc, j'en ai parlé à mon mari là il y a pas longtemps, et puis il me disait. Enfin, je le sentais pas hyper emballé sur le sujet. Ni l'un ni l'autre n'a pas été concerné par ça, de dire j'ai été issu d'un don ou quoi que ce soit. Donc, on n'a pas la visibilité à quel point ça peut être important d'avoir cette info. Moi, j'ai peut-être écouté d'autres podcasts où j'ai peut-être été plus renseignée et j'étais un peu plus sensibilisée au fait que il y a des gens qui ont ce besoin-là et qui se sentent pas complets ou qui n'ont pas la réponse à tout s'ils n'ont pas cette partie du puzzle. Donc peut-être que de ce fait-là, moi j'ai cette visibilité-là en me disant juste pour que les gens savent, et l'info, j'ai peut-être envie de le faire. Mais forcément, voilà, j'attendrai qu'il soit OK sur ce point de vue-là aussi parce que voilà, les premiers retours qu'il m'a fait, c'est est-ce qu'ils vont revenir nous voir ? Enfin, c'était un peu du style, mais pourquoi ils viendraient ? Qu'est-ce qu'ils attendraient ? Enfin, voilà, c'est de ne pas savoir quel est le besoin qu'il y aurait derrière ça, quoi.
Oui, mais de toute façon, même si tu lèves l'anonymat, ils ne peuvent pas réclamer quoi que ce soit de droit.
Non, bien sûr.
Tu n'es pas considéré comme son parent, quoi.
Non, bien sûr. Et donc, je pense qu'il y avait peut-être un peu de ça, de dire, OK, est-ce que quelqu'un viendrait réclamer quelque chose ? Mais non, clairement, ils ne peuvent pas. Mais après, je pense que, voilà, s'il y a quelqu'un qui veut venir... savoir pourquoi ou même des trucs bêtes, je me dis que ce soit maladie, que ce soit je pense qu'on a besoin de savoir ce genre de choses donc bon, et de ce fait là c'est vrai que ça a un peu c'est rigolo, c'est que c'est deux choses différentes, c'est qu'en fait moi je pense à l'anonymat par rapport au don de sperme de mon père et de manière différente à l'anonymat par rapport à mon don d'ovocyte. Donc je me disais que par rapport à ce test ADN, des fois j'hésite à le faire. Après c'est vrai qu'il est assez coûteux, mais parce que voilà, ça serait pas pour m'apporter des réponses à moi, mais ça serait pour dire, OK, j'ouvre la porte à d'autres personnes qui ont besoin de savoir peut-être qui était leur père, enfin en tout cas leur géniteur, parce que ce ne sera pas leur père. Et peut-être que justement, je me dis, est-ce que je le fais justement pour ces gens-là, pour leur ouvrir la porte ? Mais je le vois vraiment de manière complètement dissociée, quoi. C'est pas, même si au final, je fais ce test ADN, clairement, ça fonctionne des deux côtés, quoi.
Ouais, carrément.
Mais voilà, c'est deux choses. Et ça implique d'autres personnes, en tout cas, du côté de mon père, parce que ça implique ma mère, ça implique mon frère, ma sœur. Enfin, ça m'implique pas que moi. Mais après, pour le test de l'autre côté, au défait, ça implique aussi peut-être mes enfants qui, un jour, je sais pas, enfin... Je sais, personnellement, quand j'ai fait mon don, je savais aussi que c'était une possibilité qu'un jour ce le soit. Et avec tout ce qu'on a aujourd'hui, la science évolue tellement, il y a tellement de choses qui font que je l'ai fait en me disant, un jour, forcément, il y aura quelqu'un qui viendra en disant bah, peut-être, voilà, ou qui viendra voir mes enfants en disant bah, on a une partie en commun ou, ouais. ou quoi. Donc voilà, je l'ai fait en ayant ça. Mais voilà, je pense que clairement, je le ferai. Je lèverai l'anonymat parce que ça ne me dérangera pas, mais j'attends que, à mon avis, ce soit OK aussi du côté de mon mari.
Ouais.
Et peut-être d'en avoir parlé aussi avec les enfants.
Bah ouais. Mmh. Et puis en fait, c'était drôle parce que tu me disais tout à l'heure que justement, il y avait toujours cette question de si un jour tes enfants rencontrent quelqu'un, enfin plus tard dans longtemps, oui. tu vois, de se dire ah bah peut-être que cette personne-là, elle a été conçue avec mon ovocyte en fait.
Ouais, c'est sûr. Et forcément, je sais, et on en a parlé aussi en off, je sais qu'il y a beaucoup de parents qui ont recours à ce don d'ovocyte ou de sperme, qui n'ont pas forcément envie d'évoquer le sujet avec leurs enfants et de le dire que leur enfant, enfin que eux, enfin ils sont nés justement sur ça, avec cette méthode-là. Mais donc voilà, je sais que ouais, je ferai peut-être un peu gaffe, mais je pense que je verrai que par rapport aux dates, bon, ok, ouais. l'enfant est avant 2017, voilà, je me poserai pas la question.
Ouais, mais si c'est congé, ça peut durer longtemps.
Oui, voilà, mais ça sera après, alors faut qu'ils aient les... avant 2017, allez, je poserai peut-être plus la question, et je pense que j'irai pas voir, enfin, je sais pas, j'ai pas envie de me dire que je serai la mère, la belle-mère horrible qui... Alors ouais. Mais peut-être que j'aborderai rapidement le sujet par rapport aux parents, etc., enfin... Mais voilà, je sais pas encore comment et je pense que j'y suis pas encore, mais je pense que ça peut être important parce que, enfin, imaginons, aujourd'hui le don, forcément, il est fait dans le Nord. Voilà, on peut pas envoyer des ovocytes ailleurs, etc. Donc clairement, je sais que en plus, ça restera dans la région. Donc ça rajoute un peu quand même un facteur.
Des possibilités, bien sûr.
Ouais. Donc ouais, en effet, le don est fait par Sécosse et en fonction, en effet, les listes peuvent être plus ou moins longues en fonction en plus du lieu dans lequel on a besoin du don. Ouais.
Ouais, parce qu'il y a des, enfin selon les régions, il y a plus de déserts médicaux et aussi des personnes, enfin peut-être qui donnent plus dans certaines régions que d'autres.
Donc peut-être, ouais. Et puis en effet, ouais, je regardais vite fait sur la carte. En effet, il y en a un à Bordeaux, il y en a un à Toulouse, mais après le reste, c'est vide quoi. Les gens à Biarritz, par exemple.
Ouais.
C'est pas la porte à côté. Et c'est vrai que même par rapport aux donneuses, enfin, je voyais, il y en avait certaines qui prenaient genre une heure de route pour aller faire leur examen. Je me dis, punaise, elles sont. C'est vraiment chouette quoi, ce qu'elles font. Moi, ça va, c'était à Lille. Enfin, j'ai pas eu besoin de me déplacer.
Ouais.
Mais c'est vrai que voilà, les personnes qui sont à Calais, Dunkerque, clairement, ouais, c'est que à Lille. Quoi.
Ouais, c'est ça.
Donc,
ça. Tu disais que ton papa avait fait 4 dons.
Alors non, mon père, ils ont fait 4 fausses couches avant de m'avoir.
Ah oui, d'accord.
Mais je sais qu'ils ont fait plusieurs dons. Je sais pas combien.
Ouais. Tu sais combien. Enfin, il y a une limite.
Alors moi, au début, quand j'ai donné mes ovocytes, j'étais persuadée qu'il y avait une limite à 1. Et peut-être que ça change aussi en fonction des sécosses, mais j'en entends plusieurs qui disent qu'elles ont fait plusieurs fois. Je ne sais pas si après c'est limité à 2, mais je pense clairement qu'on ne peut pas en faire autant qu'on veut.
Ouais.
Côté femme. Côté homme, je ne sais pas. Clairement, je ne sais pas. Je pense pas que ce soit limité. Ouais.
Parce qu'on a évoqué tout à l'heure le film, c'est quoi, Starbucks.
Starbucks.
Où le mec se rend compte qu'il a, voilà. Mais je pense, enfin, je sais pas. Enfin, c'est vraiment une vraie question de savoir si on peut donner autant que ce que l'on veut, parce que c'est vrai que ça peut, surtout si ça reste dans la région, ça peut poser des petits problèmes, quoi.
Bah, clairement, je pense qu'en tant que femme, enfin moi, les démarches, vu le temps qu'elles ont pris, vu le délai dans lequel on a la possibilité de le faire, etc. Et puis voilà, après quand il y a des grossesses et tout, enfin, je sais qu'il y en a certaines, bah je sais pas c'est pourquoi, mais c'est un débat souvent sur les groupes, sur les forums, c'est je suis allaitante, est-ce que je peux donner, etc. Mmh. Et je sais pas si ça freine ou pas, je pense que non, mais en effet, par rapport au retour de couche, hein, je pense une femme qui a eu des enfants, etc., elle peut pas non plus, en tous les cas, en donner...
Oui, puis je pense que de toute façon, on a un nombre limité, nous, d'ovocytes.
Alors apparemment, et ça, j'ai pas hyper bien compris, mais ça ne change pas, en effet, l'avancement de la ménopause. Enfin, ça ne change pas par rapport à ça. Si j'ai bien compris, et peut-être que les spécialistes du métier écouteront et diront, mais elle dit n'importe quoi.
Si elle dit n'importe quoi, venez la contredire, voilà. On fera une contre-information.
Mais en gros, par rapport à ça, par rapport à une ovulation, vraisemblablement, il y a plusieurs ovocytes qui grandissent, et au final, il n'y en a finalement qu'un qui vraiment mûrit et qui se détache. Et là, en gros, ils viennent faire mûrir tous les ovocytes, et de ce fait-là, ça ne change rien à la production ovarienne, ça ne change rien sur la suite.
D'accord.
En espérant que je n'ai pas dit de bêtises.
Écoute, voilà. Si c'est qu'une toute petite bêtise, on la rectifiera, et puis voilà. Mais
de ce fait-là, non, en tout cas, ça ne change pas grand-chose, normalement, à la ménopause ou au stock d'ovaires qu'il peut y avoir. Enfin, d'ovules, toujours pas d'ovaires.
On en a toujours que 2. ça change pas.
Ça change pas.
mais en tout cas... on ne sait pas si cette dernière information est totalement vraie, mais en tout cas, merci pour l'éclaircissement, pour ton témoignage. C'est quoi la suite pour toi ? Est-ce que tu l'envisagerais de le refaire, si c'était possible ?
Honnêtement, je ne sais pas. Je sais que quand je l'avais fait, je m'étais mis à mon compte justement sur la période. Alors, ça s'est fait plus ou moins en même temps. J'avais lancé la démarche, j'étais salariée. C'est vrai que c'est vachement contraignant quand même. Ça prend du temps, et puis voilà, ça, c'est comme des hormones, etc. Donc je me dis, je l'ai fait une fois, et puis là en plus, j'ai 35 ans, clairement, j'ai plus que 2 ans pour le faire.
Ouais.
Je sais pas si je le ferai, clairement, je pense pas. Parce que voilà, c'est surtout un côté contrainte, etc. Je me dis, je l'ai fait une fois et que j'ai déjà fait beaucoup. Mais voilà, donc je sais pas si je le ferai.
Ça m'amène une question, ce que tu dis là, à laquelle je n'y avais pas pensé. Est-ce que tu as le droit à des congés ?
Alors, c'est pas. T'as un congé parce que je pense qu'il faut. T'as une journée de repos obligatoire par la suite, mm-hmm. parce qu'en effet, ça fatigue, ça fait vraiment une sensation de pesanteur, etc. Mais en gros, tous les déplacements que tu fais par rapport à ça sont pris en charge par. Je sais pas par quoi, mais en tout cas, sont pris en charge. Je sais qu'on peut être remboursé sur les frais de taxi s'il y avait besoin, etc. Parce qu'on peut pas rentrer seul, enfin, on peut pas conduire en sortant de ça. Et tous les rendez-vous sont un peu pris en charge. Je peux m'absenter du travail pour ça.
Ouais. C'est, oui, parce que tu as cette possibilité d'avoir un congé quand tu es en infertilité et que tu vois, tu peux te déplacer pour tes rendez-vous, tout comme quand tu es enceinte.
Voilà,
d'ailleurs,
ça.
Tu peux aussi t'absenter pour tes rendez-vous médicaux. Et c'était vraiment une question intéressante.
C'est le même principe.
Ouais. OK. Il n'y a pas de différenciation, que ce soit pour un don ou pour une infertilité et justement une PMA, enfin un parcours PMA pour soi, quoi.
Ouais, mais par contre, après, en effet, il n'y a pas de congé. Enfin, moi, je sais que le jour où il y a la ponction, c'est il faut arriver à 7h du matin, j'ai dû sortir en milieu d'après-midi, accompagner, et puis le lendemain, j'avais une journée de repos, quoi. Après,
ouais.
Voilà, c'est ça pour se remettre. Même si j'avais vraiment besoin de l'après-midi, et le lendemain, ça allait déjà, mais je sais qu'on ne réagit pas toutes pareilles pour le don, quoi.
Carrément. Ben, écoute, Mathilde, moi, je te remercie. Pour ton témoignage et pour nous avoir éclairci sur cette action hyper importante. Pour terminer, est-ce que tu peux nous dire, si jamais on a envie de faire un don d'ovocytes, par où ça se passe ? Comment on fait pour se renseigner ?
Il y a un site assez... Enfin, les deux, il y a don d'ovocytes et don de sperme. Il y a deux sites qui sont un peu identiques, mais voilà. Et en fait, en tapant ça, c'est comme ça que je suis arrivée sur le site. Et après, directement, en fait... Il y a une petite carte de la France et on cherche le Sécos le plus proche. Et de ce fait-là, moi, j'ai envoyé un mail et la procédure a été lancée comme ça.
OK.
Et avec aussi des informations, etc.
Bien sûr.
Peut retrouver sur ce site.
Ouais. Et si on a envie de te poser des questions, est-ce qu'on peut le faire ?
Oui, alors moi, j'ai aucun souci pour répondre à ça. Après, je suis pas... J'ai pas de page ou quoi que ce soit sur lequel je parle de ça, donc côté bon. Mais en effet, enfin, je serais ravie d'échanger. Et en tout cas, je sais que si on a envie de le faire, sur Facebook, il y a des groupes aussi qui existent.
Ouais.
Je sais que c'est, je sais plus comment ça s'appelle, mais justement, à la fois, je sais qu'il y a des sites pour, enfin, des groupes pour les futurs receveurs et aussi pour les donneuses qu'elles aient déjà fait ou pas encore fait et qui permet en même temps de poser des questions.
Ouais.
Sans souci.
Et si on veut te contacter, toi, on fait par quel biais ?
On peut le faire par Insta. Je ne sais plus si c'est Mathilde Daluin ou Mathilde Courbeau.
Écoute, je te taggerai.
Mais voilà.
Tu me diras, je te taggerai.
Mais voilà, je suis tellement active que je ne sais plus comment s'appelle mon Insta. Donc,
mais on peut t'envoyer des messages privés, je veux dire,
voilà,
là-dessus.
Il n'y a aucun souci, je répondrai avec plaisir.
Et bah, écoute, merci beaucoup, Mathilde.
De rien, et merci à toi, Élise.
À bientôt.
Au revoir.
J'espère que ce nouvel épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre des étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts ou iTunes pour m'aider à mettre en avant le podcast. Tu peux aussi partager l'épisode sur tes réseaux sociaux, en parler autour de toi, bref, faire en sorte que Prenons un Café soit connu du plus grand nombre. Tu peux aussi soutenir Prenons un Café sur Tipeee. J'ai très envie d'emmener le podcast encore plus loin, mais pour ça, j'ai besoin de toi. Alors si le cœur t'en dit, tu peux entrer dans l'aventure avec quelques euros. En échange, de nombreuses contreparties trop sympas t'attendent. Rendez-vous sur la page Tipeee de Prenons un Café. Tu es sur Prenons un Café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je te retrouve vendredi pour un nouvel épisode. Abonne-toi à Prenons un Café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi. Autour d'un café.
Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves
without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.